bonjour et merci d'être fidèle à Question Politique, le rendez-vous du week-end de France Inter, du journal Le Monde et de France Info, en direct avec nous jusqu'à 13h à l'Assemblée nationale, à la tribune. Cette semaine, il déclarait que la deuxième vague de l'épidémie était aussi, je le cite, une période de vague à l'âme, qu'elle provoquait une forme de désespérance dans le pays qu'il fallait à tout prix combattre. Et je le cite toujours, le monde de fou dans lequel nous vivons est aussi un monde de flou, d'incertain et en manque total de repères. Et pour finir, une France sans projet est une France dangereuse. C'est l'un des députés les plus expérimentés. Ses diagnostics et ses compétences sont incontestés même parmi ses opposants. Et il est à la tête de la plus prestigieuse commission de l'Assemblée nationale, celle qui contrôle les décisions financières et budgétaires que prend le gouvernement. C'est donc lui que nous voulions entendre au moment où tous les logiciels, tous les verrous économiques et budgétaires sont en train de sauter à cause de la crise que nous traversons. Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le député Les Républicains Éric Woerth, et dans Questions politiques pour intervenir, le hashtag #QuestionPol ou l'application mobile France Inter.
France Inter, Questions politiques, Ali Badou.
Bonjour Éric Woerth.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce dimanche pour vous interroger, l'équipe de Questions Pol, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Et Karine qui a préparé votre portrait, Éric Woerth, et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Chacune est dans son, derrière son hygiaphone, nous le sommes tous, pour respecter les mesures sanitaires. Mais c'est les conditions évidemment pour que cette émission se déroule conformément aux règles que nous devons respecter. Une question, Éric Woerth, pour commencer. Comment est-ce que vous vivez ce deuxième confinement? Non pas personnellement, psychologiquement, mais à la limite politiquement. Est-ce que vous arrivez à faire votre travail d'opposant, à vous projeter dans un avenir où vous imagineriez ce que la France pourrait être?
D'abord, bonjour. Moi, je suis un opposant constructif et positif. En tout cas, j'espère ne pas être un pessimiste de nature, même si les propos rapportés sont des propos
qui sont
exacts. Et j'y crois. Oui, bien sûr, j'y crois profondément. Mais derrière cela, il doit surtout y avoir de l'espoir. Et les politiques doivent à la fois être lucides, à la fois donner la vérité des choses. On ne peut pas tromper. Et qui peut penser ça? Les populations. Mais en même temps, il faut essayer de dire vers quoi on va. Alors,
vous allez nous dire comment, ce qui nous est permis d'espérer, comment vous imaginez justement quelque chose comme l'espoir. Mais cette période de vague à l'âme, pour reprendre vos mots, est-ce que vous pourriez la définir plus précisément?
Oui, dans le premier confinement, il y avait évidemment, c'était un confinement tragique. Des morts, l'hôpital, et, enfin, tout ça, c'était tragique. Mais il y avait une sorte d'envie d'être ensemble, d'applaudir, de sortir sur les balcons, de faire des vidéos, de l'humour. Voilà, il y avait une sorte de deuxième ou troisième degré pour essayer de surmonter les difficultés qui étaient les nôtres. On trouve pas ça maintenant.
Ça vous manque les vidéos marrantes sur Instagram?
C'était drôle. Il y avait plein de gens qui avaient un talent fou. Mais surtout, le deuxième confinement vient sur un corps social et économique qui est affaibli. Il y a des vagues de chômage qui ont commencé. On a pris 2% de chômage. C'est pas des pourcents, c'est des gens qui sont au chômage. Il n'y a pas de comptabilité derrière. Il y a des familles qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions sur l'emploi. Et puis, il y a l'idée que la liberté ou la contrainte à la liberté a évidemment quelques limites. Puis surtout, on a le sentiment qu'on s'en sort pas. Il y avait la possibilité de s'en sortir. Le confinement, c'était s'en sortir. Là, le confinement, c'est au fond, on sait pas bien si on va s'en sortir. On espère pouvoir faire nos réunions familiales et, au moment de Noël. C'est juste ça. C'est pour ça que je parlais d'un pays sans projet. Un pays sans projet, c'est un pays qui devient dangereux. Parce qu'à ce moment-là, de la désespérance...
Mais qu'est-ce que vous voulez dire très précisément?
Ne naissent que de mauvais sentiments.
Qu'est-ce que vous voulez dire très précisément? Ça active les passions négatives? Est-ce que ça nourrit l'extrême droite? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ça nourrit les complotismes. Ça nourrit les passions négatives, comme vous le dites, les passions tristes. Ça nourrit probablement, ça affaiblit encore le pays. Ça crée de l'épargne de précaution, si on veut essayer de parler économie, c'est-à-dire qu'on s'auto-protège, on se repli sur soi-même, déjà c'est une tendance assez naturelle. Donc on se replie sur soi-même, l'argent ne sort plus, l'investissement ne se fait pas, la consommation est reportée, et puis il y a le sentiment que, au fond, on est traité inégalement, injustement, que probablement derrière tout cela, c'est en plus inutile. Tout ça, c'est d'assez mauvais sentiments, en fait, pour construire l'unité d'une nation. Hein.
C'est le moins qu'on puisse dire, Nathalie Sinclair.
Clairement, Eric Woerth, le confinement est prolongé jusqu'à 1er décembre minimum, en tout cas probablement après. Les commerces peut-être ouvriront-ils à partir du 1er décembre. Quant aux restaurateurs et aux bars, on est renvoyé à 2021. Est-ce qu'on pouvait faire autrement, justement, pour lutter contre le vague à l'âme français?
Bah, d'abord, je crois que on n'a pas anticipé. D'autres pays aussi. Je veux pas jeter la pierre au gouvernement, c'est compliqué, c'est très difficile. Mais quand même, lucidement, on n'a pas anticipé la première vague. Regardez Agnès
c'était
Buzyn.
C'était difficile à faire.
Ah ouais, mais attendez, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, elle part au mois de janvier, au moment où commence l'histoire de la Covid. Donc il y a quand même un tout petit problème d'anticipation. Et là, c'est la pleuve.
Mais si on est juste, le virus flagrant. A pris de vitesse.
Le virus, il était déjà là. Il était en France avant la période de confinement.
Oui, mais
était là en décembre, il devait être là en novembre, on le confondait avec une grippe, enfin il existait. Il n'avait pas été suffisamment détecté, sauf si j'ai bien compris, par la ministre elle-même qui l'a dit. La deuxième vague, elle n'a pas été anticipée non plus. Sa puissance, sa hauteur, sa dangerosité...
Empêcher les Français de partir en vacances, alors même que pour lutter contre le vague à l'âme dont vous parlez, ouais. Où tout le monde a senti qu'ils avaient besoin.
C'est facile de dire, c'est toujours facile de dire, on aurait dû. Hein.
Oui, c'est pour ça que
on met Paris en bouteille. C'est toujours très facile. Mais enfin, on a le droit aussi de regarder un tout petit peu le passé, sans s'y installer évidemment définitivement. Mais le déconfinement a été un relâchement. En réalité, ça n'a pas été un déconfinement. On l'a tous vécu, mais pour nous-mêmes. Donc on s'est laissé aller. On était en vacances. Il faisait beau. Tout le monde a essayé de revivre comme il vivait, en réalité, normalement. Il aurait fallu sans doute imposer quelques contraintes pour éviter cela, sachant que la deuxième vague était prévue, elle avait été annoncée dès le mois d'avril, on parlait de deuxième vague, comment s'y préparer. Elle a été sous-estimée. On a sous-estimé les choses au premier confinement, on a re-sous-estimé les choses au deuxième. Bon, il faut réussir le déconfinement.
Mais Karine Bécard. Là, finalement, vous nous racontez effectivement ce qu'on a tous observé, ce qu'on est tous en capacité de dire aujourd'hui. Mais avant cela, le député de l'opposition, qu'est-ce qu'il a dit finalement, par exemple, au mois de septembre, au moment où Jean-François Delfraissy, le président du comité scientifique, commence à dire qu'il va falloir prendre des décisions difficiles. Et puis finalement, en mi-septembre, il ne s'est rien passé. Est-ce que vous avez sonné l'alerte dans l'Assemblée, puisque vous avez le droit de vous exprimer?
Comme beaucoup, on a parlé de deuxième vague très rapidement. On a évoqué la relance économique nécessaire. On a dit qu'il ne pouvait pas y avoir un tel déséquilibre entre l'économie et la santé lors de la deuxième vague et qu'il fallait tenter d'imposer autre chose. Donc on a essayé de faire jouer nos capteurs.
À droite, vous avez quand même plutôt freiné. Vous avez plutôt joué le jeu des commerçants, par exemple.
Moi, je pense qu'on aurait dû ouvrir les commerçants. Je pense qu'on n'aurait pas dû fermer les commerçants. Je pense que ce n'était pas utile, que ce n'est pas un lieu de propagation visiblement du virus et que ça n'aurait pas entraîné non plus une mobilité ou un flux de personnes dans les rues supplémentaire à celui probablement qui est le nôtre. Il fallait évidemment inventer sans doute d'autres règles barrières si on avait fait ça. Et je pense que la vraie erreur a été la FNAC et les libraires. En fait, c'est parti de cela. Les commerçants avaient accepté de fermer lors de la première vague. Dans la deuxième vague, ils comprennent pas tout d'un coup. Dans ce genre de situation, il y a toujours beaucoup d'incohérences. Il y a nécessairement des incohérences, elle contient des incohérences. Sauf qu'il y a des incohérences supportables, il y a des incohérences qui ne le sont pas.
Parce qu'elles
sont perçues non plus comme une incohérence, mais comme une injustice. Et quand on passe aux injustices en France, ça peut devenir très dangereux.
Mais vous dites qu'on aurait dû être plus sévère. Et
nous, on avait proposé que les commerces restent ouverts. Restent ouverts. Moi, je pense que les commerces devaient rester ouverts.
Alors,
c'était
précisément,
nécessaire.
Jean Castex, dans Le Monde, dit qu'il va y avoir des scénarios jusqu'à ce qu'on ait trouvé un vaccin. Est-ce que vous demandez à être associé à l'élaboration de ces scénarios?
Oui.
Ou est-ce que vous considérez qu'au fond, c'est le boulot du gouvernement et que vous êtes dans le contrôle?
Nous, on veut aider le gouvernement. Enfin, on veut aider le pays. On n'est pas des fous furieux. On veut pas la destruction division du pays. On veut au contraire une reconstruction du pays, mais qu'il y a un débat entre formations politiques ou est évidemment naturel. Donc on demande à être associé aux prises de décision. Mais l'exécutif gouverne. Personne ne remet en cause cela. Mais être associé un peu, entendu de temps en temps, ce serait peut-être pas mal. Nous déposons beaucoup d'amendements dans les textes qui sont dans plein de textes en ce moment. On dépose beaucoup d'amendements qui sont des amendements plutôt raisonnable, je crois, et peut-être pas si mal, pas en décalage avec l'opinion publique.
Jean Castex dit, il n'y a pas de prise en compte de ces amendements. L'opposition n'est pas responsable, parfois ils veulent qu'on ouvre, parfois ils veulent qu'on ferme.
Non, mais il raconte ce qu'il veut, le Premier ministre. Il est dans sa tour d'ivoire. Mais je ne crois pas qu'on raconte tout et n'importe quoi. Non, pas vraiment. On essaye de dire qu'il faut nous associer aux prises de décision. Et pas uniquement au moment de grand-messe. C'est une drôle d'idée de faire des comités de citoyens. De dire, c'est formidable, il faut respecter, il faut faire ce qu'ils ont demandé, etc., sur l'écologie. Mais alors, l'opposition, on s'en fout. C'est une drôle d'idée. Enfin, l'opposition dans un pays, nationale. Dans un pays, ça me semble assez naturel. Il y a des corps constitués. L'Assemblée, il suffit pas d'un débat. Il y a eu un débat cette fois-ci. Bah, très bien. Mais il suffit pas d'un débat. Ça ne suffit pas. Associer l'opposition est, à mon avis, une nécessité absolue dans un pays qui est en crise. Et nous sommes en crise.
Nathalie, si justement nous associons l'opposition.
Crise avec un S.
À France Inter, nous associons l'opposition. Je voudrais vous demander deux choses précises pour ce qui, vous avez parlé des commerçants, pour ce qui est des restaurateurs, des bars et des restaurateurs. On voit beaucoup de manifestations, il y en a eu hier dans le sud de la France, à Marseille, à Nice, avec des gens qui avaient l'air d'être au bord du désespoir. Donc, que faut-il faire avec cela? Et deuxièmement, question d'actualité sur les lieux de culte. On voit aujourd'hui que devant un certain nombre d'églises, on est dimanche, c'est le jour de la messe, il y a des rassemblements de gens qui demandent à pouvoir prier, non seulement maintenant, mais un jour aussi peut-être pour Noël.
Sur les commerçants, ça pose plein de sujets. On est en pleine politique et sur les restaurateurs aussi. On est en pleine politique de cœur de ville. Il faut conserver des commerçants, rééquilibrer les grandes surfaces et les commerces.
Mais sur les restaurateurs précisément, vous devez en avoir à Chantilly.
Les restaurants, les bars.
C'est indiscutablement des lieux de propagation.
Donc
indiscutablement. Ils ont été fermés. C'est insupportable pour eux. Je connais comme vous et comme ceux qui nous écoutent, on a tous nos petits restaurants préférés. C'est un drame absolu.
Combien feront faillite en survie? Vous en avez une idée?
Non, j'en ai pas d'idée. Et je voudrais surtout pas donner des chiffres. Non, on n'en a pas.
Vous avez bien des logiciels qui vous permettent de mesurer les conséquences de ces fermetures prolongées.
Mais pas moi. Pas
même
sur
une
les,
fourchette, pas c'est
les...
pas possible de savoir.
Non, vous ne tablez pas. On a des fourchettes en termes de chômage. Oui. En termes de fermeture, c'est des dizaines de milliers d'établissements.
Mais il faut accepter qu'ils soient fermés.
Je pense que c'est un lieu où on se démasque, voilà. Où on se démasque, où on mange, où il y a des interactions, comme on dit, qui sont évidemment fortes et visiblement assez dangereuses. D'ailleurs, d'autres pays l'ont fait. D'autres pays laissent les commerçants ouverts et ferment les endroits de restauration. Mais il faudrait leur donner un peu de visibilité, quoi.
Ça veut dire quoi?
Est-ce qu'on en a vis-à-vis du coronavirus?
Non, je pense que l'État, il est quand même là pour essayer de dire, dans ce grand brouillard, essayer de montrer qu'il y a quelques points de repère quelque part. Alors, il y a un président, ils sont surinformés, hein, bien plus informés que nous tous ici. Donc, il y a des points de repère qui devraient être donnés et qui ne le sont pas, ni sur le plan économique, c'est pour ça que je demandais des scénarios accompagnant le budget.
Oui.
Ni sur le plan de la gestion du Covid.
En ce qui concerne les cultes, volet de la question, oui, de
en ce qui concerne les cultes, moi je suis catholique, pratiquant, je vais à la messe. Je peux comprendre que les rassemblements étant interdits, une messe est un rassemblement. Je peux le comprendre. Ce qui serait moins compréhensible, ce serait évidemment que les églises soient fermées pour Noël. Ça, ce serait totalement incompréhensible. Comme ce qui serait incompréhensible, c'est que les familles ne puissent pas se regrouper, chacun aussi étant auto-censeur. C'est-à-dire, on voit bien qui on peut inviter, qui on peut pas inviter. Peut-être que le parent trop âgé. Enfin, il y a des discussions intrafamiliales.
Combien de personnes invitées?
Mais tout ça est compliqué. Mais c'est compliqué de faire c'est compliqué de confiner en ayant des propos de déconfiner.
Bien sûr. Juste un mot, Éric Woerth, cette image qu'on a vue justement de prières de rue. Elles sont interdites et pour d'autres religions, elles font scandale. En l'occurrence, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette image? Est-ce que c'est pour vous l'image de quelque chose d'illégal? Est-ce que vous comprenez ces croyants qui se réunissent pour prier?
Je les comprends, mais comme catholique, je n'irai pas. Je les comprends, mais il y a un état de droit qui, à un moment donné, estime, et c'est vrai que les rassemblements, c'est indiscutable, donc les rassemblements sont propagateurs de virus, peut-être même avec des masques, autant de monde. Alors, on est dehors, on peut évidemment toujours dire beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure, dans ce cas-là, il n'y a plus aucun confinement. Mmh. Si vous dites, les enfants vont à l'école, vous devez, vous pouvez aller travailler, vous pouvez vous rassembler, vous pouvez aller déjeuner dans un restaurant, vous pouvez, dans ce cas-là, il n'y a pas de confinement, on en sans limite aux règles barrières. Et on voit bien qu'elles ne suffisent pas. Et je pense que plus on ouvrira, plus il faudra monter les sanctions sur ce qui est véritablement interdit. L'État, il doit être extrêmement clair sur ce qui est interdit.
C'est et à chaque le cas, fois, les c'est critiques. C'est pas le cas pour l'instant.
Il fait des progrès au fur et à mesure du temps, mais on voit bien que, regardez la période du deuxième confinement, on avait pourtant l'expérience du premier. Plus personne ne comprend rien. Un enfant, comment on va le chercher, comment ça marche sur les classes, le commerce de première nécessité, les libraires, plus personne ne comment on va travailler, télétravail obligatoire ou pas, on comprenait rien. Donc il faut absolument que ce soit compréhensible et c'est l'élément indispensable pour que ce soit acceptable. L'acceptabilité de règles qui sont des règles qui vont contre la liberté doivent être totales dans une démocratie.
Et donc si je vous comprends bien, pour par exemple la soirée du réveillon de Noël et la soirée du réveillon du jour de l'an, il faut envisager, je sais pas, les Républicains peut-être envisagent des règles particulières à mettre en place avec des sanctions si c'est pas respecté.
Je suis pas le porte-parole des Républicains.
Non, mais vous êtes un membre éminent.
Oui, mais je
merci, Ali.
Je suis un individu là. Je vais pas parler au nom de ma propre
formation
politique.
Alors, parler au nom des Républicains, c'est déjà très très bien.
Évidemment, Noël doit être un moment où les familles puissent se rassembler, où on peut prendre sa voiture, aller dans sa famille, qu'il n'y ait pas de nécessité d'avoir un bordereau qui vous autorise à aller souhaiter Noël avec votre fils, votre fille, vos sœurs et vos parents.
Bon, donc pas de règles particulières.
Non, je pense qu'il faut pas de règles particulières. Vous allez pas dire aux familles, c'est si, c'est pas plus, quoi. Honnêtement, vous pouvez pas. Et je pense que
Même pour la soirée du réveillon du jour de l'an.
Je pense que la population, elle est suffisamment informée, nos concitoyens, des risques que chacun fait encourir à l'autre. Vous n'avez pas envie de les faire pour des gens que vous ne connaissez pas. Vous avez en plus pas envie du tout de les faire en intrafamilial. Donc, il faut rappeler les règles. Et puis, je crois, laisser les familles fêter dignement et normalement Noël. Le 31 décembre, c'est pas pareil. Je pense que le 31 décembre, c'est plus festif qu'autre oui. chose. Donc, à partir du moment où les fêtes, c'est de regroupement...
C'est important, la fête.
Oui, je suis d'accord avec vous, parce que c'est mon caractère joyeux. C'est formidable. Mais alors, si la fête, c'est pour mourir ensemble, si vous voulez, c'est pas non plus la super fête. Vous voyez, j'essaie de... Et le 31 décembre, il faut évidemment y mettre des règles extrêmement précises. Ça peut pas être un lieu de relâchement total, parce qu'à ce moment-là, ce sera un lieu de rebond de l'épidémie. Et tout rebond de l'épidémie empêche la liberté de reprendre pied, quoi. Ça retarde la liberté.
Alors, c'est là-dessus que je voulais vous interroger. Pourquoi à ce moment-là vous tenez absolument à ce qu'on réouvre les commerces et pourquoi vous dites on n'aurait pas dû les fermer alors qu'au fond c'est un lieu de contamination parce que vous faites plusieurs boutiques en même temps, vous sortez, c'est multiplier les occasions de sortie.
Non, je pense que c'est très concentré dans les centres-villes. Il faut que les centres-villes continuent c'est des petites entreprises. Elles sont souvent sur le fil du rasoir en termes d'équilibre économique. Et puis, il y a cette injustice vis-à-vis des grandes surfaces. Il y a une injustice totale. Enfin, tout le monde dit la même chose et tout le monde pense la même chose. Vous promenez dans les grandes surfaces, vous avez des rayons. Promener dans les grandes surfaces, vous considérez qu'un commerçant, c'est au fond autant de rayons dans un centre-ville. À partir du moment où il y a des limites au déplacement, des temps... et puis, il faut leur faire confiance. À l'intérieur du commerce, en général, on a tous fréquenté des commerces au moment où ça s'est réouvert. Ils font ça très, très bien. Quoi. Il n'y a pas de fous furieux. Et puis, s'il y en a un, la police municipale, elle est là pour le sanctionner.
Mais il est là, le plus grand magasin du monde.
Encore une fois, il faut à un moment donné augmenter le niveau des sanctions.
Il est là, le plus grand magasin du monde. C'est sur un écran. Mais est-ce que, parmi les gagnants de la crise, est-ce que ceux qui en sortiront plus forts, ce ne sont pas justement les géants du e-commerce, c'est, je pense, évidemment à Amazon.
Ça met en plus en valeur encore plus cela, c'est-à-dire le déséquilibre et l'injustice qui peut être... mais c'est vrai. Donc le commerce numérique, il a évidemment beaucoup prospéré. Alors tant mieux, ça veut dire que les gens aussi peuvent acheter quelque chose, parce que vous ne pouvez plus rien acheter, c'est pas bien. Mais enfin, on voit bien qu'il y a un poids de mesure. Et c'est totalement... C'était déjà pas supportable il y a 2 ans ou 3 ans, c'est totalement insupportable. Alors, les commerces doivent être numérisés, mais enfin, entre nous, ils ne le seront pas pour le lundi, ça c'est pour la prochaine crise. On peut faire du click and collect, mais enfin, qui revient aujourd'hui, au fond, avoir un bureau ou une table à l'entrée du commerçant, et puis on va chercher. Bon, ce moment doit être aussi un moment donné où on progresse dans l'inégalité entre commerce physique et commerce numérique. Il y a des règles fiscales, notamment, oui, qui doivent être mieux appliquées, et quand elles sont pas, et quand il y en a pas,
c'est un autre facteur d'injustice concernant les GAFAM, puisque Amazon est l'un des A de GAFAM.
Il faut en recréer, et on en est encore là, on en a discuté pendant encore 3 heures à 2 heures du matin à l'Assemblée nationale avant-hier. Le gouvernement ne veut pas bouger là-dessus.
Et
je ne le comprends pas.
Oui, à aucune conclusion. On en est déjà au 4e budget rectificatif. Vous, dont le métier est de contrôler les comptes de la nation et notamment le budget que présente le gouvernement, est-ce que tous les verrous ont sauté? Est-ce que vous êtes dans une situation d'inquiétude, vous, pour qui la bonne tenue des comptes publics était une règle intangible qu'il fallait à tout prix respecter?
Moi, je suis pas un comptable, hein, et j'ai pas de dogme là-dessus. Je sais simplement qu'à un moment donné, quelqu'un paye. Quoi. Quand vous dépensez en 2020, on va dépenser 2 fois plus que ce qu'on perçoit. On perçoit des impôts et on dépensera 2 fois la somme perçue d'impôts. Bon, il y a des moments, il faut évidemment mettre un coup de boutoir parce que c'est nécessaire.
Et donc, et le moment est arrivé.
Évidemment, oui, ce moment évidemment, il est là comme il a été c'était le cas en 2008-2009.
Sauf que les arbres, le gouvernement cessez d'emprunter, cessez de dépenser.
Oui, sauf que les arbres, ils montent pas jusqu'au ciel et les racines, elles descendent pas jusqu'au centre de la terre parce que il y a derrière des gens qui paieront. Et on doit donc avoir des mesures ciblées, on doit accepter d'aller très loin à un moment donné et reprendre les choses et c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de mesures dans les différents projets de loi de finances que nous avons, ils sont des mesures de dépenses qui n'ont rien à voir avec la crise. Bah, les projets d'investissement d'avenir, il y a 11 milliards d'euros inscrits, c'est très important, ça a été créé par Nicolas Sarkozy il y a maintenant 10 ou 12 ans, c'est pas un sujet qui est lié directement avec la crise. C'est un sujet qui est lié avec la transition, avec mais bon, quand on voit des gens qui ferment lundi, les crédits ils sont d'abord avant d'être de relance, ils sont d'abord des crédits d'urgence. Quand il y a des crédits pour augmenter le nombre de kilomètres de haies dans les campagnes, 7000 km de haies supplémentaires, c'est très bien, c'est très judicieux, c'est important pour les sols.
Et puis, il n'y a rien de plus beau qu'un paysage de bocage.
Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire?
En même temps, vous acceptez d'ailleurs plus d'éoliennes, mais enfin bon, oublions tout cela.
C'est sur l'environnement,
ça n'a rien, ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien, je dis pas que c'est pas une dépense légitime, vous savez, elles sont, il y a beaucoup de dépenses légitimes, ça n'a rien à voir. Lorsque vous équipez les policiers de caméras piétons, c'est très important pour les policiers et pour nos politiques de sécurité. Le lien avec la crise, il est moyen. Tout
alors,
ça, c'est dans les missions de relance. Donc, les missions de relance sont aussi un énorme alibi pour aller dans le sens, au fond, des défauts français, qui sont ceux toujours de dépenser sans jamais se poser la question de savoir comment on finance.
Attendez, ça veut dire qu'il faut réorienter, vous demandez un réexamen des dépenses du plan de relance, qu'il faut faire plus de mesures de soutien immédiat,
bien sûr,
un peu moins de relance, ou les deux en même temps.
Je conteste même l'idée que ce soit de la relance. Les caméras piétons, c'est pas de la relance. Les haies dans les, c'est pas de la relance. C'est des crédits qui vont dans une crédit, dans des crédits écologiques, dans des crédits de sécurité. On a des priorités, on les décide. Bon, tu sais, je ne critique pas le contenu, je critique le moment. Et je pense que c'est un moment suffisamment grave pour pas en rajouter. Et si on en rajoute, si on rajoute des dépenses qui n'ont rien à voir avec le soutien immédiat ou une relance, la relance, elle doit être très ciblée. C'est-à-dire, la relance, c'est quoi? C'est augmenter la croissance potentielle du pays pour justement d'ailleurs payer, faire face à notre endettement et pour permettre de repartir plus vite. Ça permet de garder de l'air dans le ballon. Il n'y a pas de rebond s'il n'y a plus d'air dans le ballon. Et d'ailleurs, le ministre allemand économique, il le dit très bien. Il dit, nous avons, au fond, on en a gardé sous le pied parce qu'on sera capable de relancer lorsque le moment viendra. Et on sera capable d'affronter les crises futures. Ce virus, il est terrible. Mais il y en a peut-être d'autres derrière. On est un pays et un monde. D'ailleurs, le monde connaît une accélération des crises fondamentales qui est assez inquiétant. Et pour y faire face, il faut quand même que les États gardent des marges de manœuvre.
Alors justement, Éric Woerth, est-ce que vous pourriez nous dire combien a coûté la crise du Covid depuis le début? Combien ça a coûté à la France?
Oui, je peux vous le dire. Ça dépend comment on calcule. Alors, premier calcul, c'est la perte de richesse. La perte de richesse, c'est de l'ordre de 300 milliards d'euros aujourd'hui. Donc, c'est évidemment des chiffres tout à fait gigantesques, 300, probablement un peu plus. Donc, c'est la perte de richesse. C'est-à-dire, c'est en fait la récession. Oui. C'est-à-dire que vous êtes déprimé et vous...
Je pensais plutôt à l'évaluation du quoi qu'il en coûte. C'est de l'argent... Donc,
ça, c'est le deuxième.
Voilà.
La deuxième façon de calculer, c'est les budgets. Ça a coûté en direct, en argent sonnant et trébuchant, 86 milliards d'euros pour 2020. Alors, on est loin des 460 qu'indique le président de la République.
Alors, comment nous expliquer ça?
Les différences, elles sont assez fondamentales. D'abord, dans les 86, c'est l'argent qui a été mis fin 2020. On va continuer à en mettre en 2021. Donc, on s'approchera des 100 milliards, 120 milliards d'euros, sans doute. C'est des sommes qui, aujourd'hui, on a le sentiment que c'est pas grand-chose. C'est en fait énorme. Énorme. Enfin, pour le pays, c'est un truc absolument gigantesque. C'est le tiers d'un budget, c'est tout à fait gigantesque. Aujourd'hui, on emprunte, en 2020, on va emprunter 10% de notre richesse nationale. Les Allemands, ils ont un frein à l'endettement à 0,35%. Donc, c'est des sommes gigantesques. Et puis, les 460, en réalité, quand le président de la République disait 460 et le ministre de l'économie, c'est-à-dire que derrière toutes les garanties qui sont données. Et donc, il y avait 300 milliards d'euros garantis par les entreprises. Sur les 300, il y en a à peu près 120 qui ont été tirés, donc une bonne partie ne l'a pas été. Et sur les 120, une bonne partie est restée sur les comptes en banque des entreprises. Elles ne les ont pas utilisés.
Dépensé.
Donc ce sera plus simple. C'est les reports les reports de charges. Quand vous dites vous devez de l'argent fiscal ou social à l'État, si vous reportez, à un moment donné, vous êtes obligé de payer. Donc, y a, évidemment, ça n'est pas combien. Donc, en direct, en argent, en injection de liquidité, c'est 86 milliards d'euros.
Mmh. Karine Descartes, puis Françoise Fraisseau.
Alors, on entend très simplement et très clairement votre discours, l'argent qu'on dépense, le niveau de la dette, des déficits. Malgré tout, quand on voit aujourd'hui l'hôpital public, l'État dans lequel il est, son manque de soignants, son manque de lits, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a peut-être quand même des limites à l'orthodoxie budgétaire ou des choix
Il n'y a jamais eu d'orthodoxie budgétaire, il faut arrêter de rigoler avec ça.
On n'a pas eu un budget à l'équilibre depuis 1974.
Oui, on représentait avant le Covid 80% du déficit de la zone euro. Donc faut arrêter de dire que le pays... Tout est bonne raison à laxisme. Tous les services publics, on a mis de l'argent bien plus que tous les autres pays. La question, elle n'est plus tellement des moyens. La question, elle est de l'organisation. C'est la question sur l'hôpital, c'est un sujet extraordinairement sensible. Mais la question, elle n'est pas d'avoir 10 000 lits en permanence de réanimation. On ne s'ajuste jamais au plus haut niveau d'un pic de crise. On fait en sorte que l'organisation soit capable de réagir à une crise.
Mais on n'a pas
qu'elle soit
abîmé
organisée pour cela,
qu'entre
l'hôpital privé et l'hôpital public, qu'entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, que tout ça soit organisé au mieux, qu'on ait suffisamment formé de personnel soignant, que les rémunérations des uns et des autres soient à un niveau qui attractif. Mais ça veut dire aussi, derrière rémunération, il y a le temps de travail, il y a l'âge de la retraite, il y a aussi tout cela. Ouais. Enfin, on peut essayer de parler entre adultes à un moment donné et ne pas considérer que la seule solution pour l'État, c'est toujours d'ajouter de l'argent à de l'argent, sachant que si c'est pas bien organisé, cet argent, il va être mal utilisé. C'est l'argent de tous, c'est l'argent de tout le monde, c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent des entreprises, c'est autant d'argent qu'on ne se redistribue pas, in fine.
Le président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, le député Les Républicains, Éric Woerth, est l'invité de Questions politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou, question politique.
Et question de Françoise Fraisseau.
En même temps, on n'entend pas énormément de critiques de fond sur ce plan de relance parce qu'au fond, tout le monde voit bien qu'il faut aider, qu'il faut soutenir, y compris les petits commerçants dont vous plaidiez l'ouverture. Est-ce que ça, c'est pas une grosse handicap pour vous, la droite, d'essayer d'imaginer le monde d'après alors qu'au fond, il y a un consensus aujourd'hui sur le fait qu'il faut dépenser et qu'il faut aider, qu'il faut soutenir?
Mais je pense qu'on peut gagner des élections futures en ayant eu une attitude responsable pendant la crise. Je pense que nous avons une attitude responsable. On a voté les quatre projets de loi de finances rectificatives.
Voilà, budget rectificatif.
La fin de l'année dernière. Nous l'avons fait, mais nous avons proposé.
Le déficit à 11%, voilà, donc oui, c'est des choses
fait. Oui, mais Madame Fraisseau, nous l'avons fait parce que c'était notre responsabilité que de le faire. Il y a d'autres formations politiques qui ne l'ont pas fait. Ça nous donne aussi une liberté de critique, et c'est bien naturel. Heureusement qu'on peut critiquer. D'ailleurs, si on ne critique pas, le gouvernement, il ne s'améliore pas. La plupart des mesures qu'on a proposées, souvent, elles ont été votées elles ont été rejetées et voter un budget après. Donc tant mieux. Le plan de relance, on est les premiers à avoir sorti un plan de relance. Alors on s'en fout, c'est pas un concours de plan de relance, c'est pas la question. Enfin, on est les premiers à la fin du mois d'avril à avoir sorti un document de 15 pages pour dire en quoi pourrait constituer une relance. Le gouvernement s'en est inspiré. Bien tant mieux. Et bien tant mieux. Donc on doit travailler ensemble. Et lorsque le gouvernement travaille tout seul, il est évidemment moins bon. Il peut pas appeler à la cohésion nationale en associant à peu près, à pas grand chose en tout cas, l'opposition. Alors c'est dans le réflexe naturel d'un gouvernement, hein, c'est pas le premier à faire ça. Mais dans une période comme celle-là, il y a des points de convergence qui doivent être très forts. On diverge beaucoup sur la gestion de la crise concernant le terrorisme.
Oui.
Ou l'immigration. Là, il y a des sujets de différenciation qui sont très très importants. Mais on fait des propositions à chaque fois. On est une opposition responsable et on a une vision de la société. On a une vision de la société française. On l'exprimera à un moment donné.
Oui, il sera temps un jour de le faire.
Oui.
Nathalie,
ça crée pas tellement le temps entre nous.
Sur la gestion du plan de relance, est-ce que vous considérez qu'il y a l'espoir de bien s'entendre avec eux et de faire avancer les choses? Ou plus clairement, ou plus différemment, vous considérez que par exemple Bruno Le Maire ouvre tellement les vannes, par démagogie, par incompétence, ça...
Non, pas par incompétence, ni démagogie. Je voudrais employer des termes qui blessent. Il fait son job. Je pense simplement que c'est formidable d'être ministre de l'économie et des finances aujourd'hui. Enfin, formidable, j'en sais rien. Sans contrainte budgétaire. Il y a pas de contrainte budgétaire.
Si chez
France Info ou si au Monde ou France Inter, on vous disait, vous faites la meilleure, vous faites une bonne radio et vous n'avez aucune contrainte budgétaire, je suis sûr que vous feriez vachement de progrès, quoi.
Ça n'est jamais
sauf
arrivé.
Qu'à un moment donné.
Et ça n'arrivera probablement pas.
Peut-être que ça n'arrivera pas. Donc, c'est aussi. Donc, je pense qu'ils doivent se donner une contrainte.
Est-ce que vous feriez mieux ou différent?
J'espère qu'on ferait mieux. Écoutez, je défends une famille politique. J'espère qu'on aurait fait mieux. Je n'en sais rien et personne ne le prouvera jamais. Juste ce que je souhaite, c'est qu'au moment donné, à un moment où ce virus aura disparu, il faudra vraiment que la France et plus globalement l'Europe ne décroche pas. On voit bien que les États-Unis peuvent repartir bien plus vite que l'Europe et que la France, c'est sûr, que les Chinois. Ils ont un régime politique qui
fait rêver.
En tout cas, permet la cohérence et la cohésion nationale à base de contraintes. Iront évidemment aussi beaucoup plus vite et avec un marché intérieur très fort. Il faudrait pas que nous on décroche par rapport à ces pays-là. Et il faudrait pas non plus que ce soit un moment de décrochage infra-communautaire. C'est-à-dire qu'entre les pays du Nord ou les pays du Sud, la manière de gérer la crise aurait été tellement différente et on en sortira dans des conditions tellement différentes que ce sera de plus en plus difficile de construire une Europe solidaire. Et nous sommes un pays du Sud,
comme on dit.
Malheureusement.
Votre portrait, Éric Woerth, signé Karine Bécard.
25 années d'itinéraire politique. Vous vous êtes montré, Éric Woerth, durant tout ce temps, extrêmement résistant, d'une incroyable solidité, en acier trempé, disent même certaines personnes qui vous ont côtoyé. Vous avez servi Nicolas Sarkozy, bossé avec Alain Juppé, soutenu François Fillon. Aujourd'hui, on aimerait savoir ce que vous pensez de la nouvelle classe politique qui doit vous sembler tellement tendre et tellement novice. On aimerait comprendre ce qui vous a donné envie de rester et si parfois il vous arrive de le regretter. Vous, qui avez débuté, on l'a complètement oublié, aux côtés de Jacques Chirac. Vous avez été directeur financier du RPR et le directeur financier de sa troisième campagne présidentielle, la première campagne victorieuse en 1995, celle dont on vient d'apprendre officiellement que les plafonds financiers avaient été dépassés. À l'époque, vous aviez 39 ans, maire de Chantilly dans l'Oise. C'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous installer politiquement. Et votre chiracisme, donc, ne vous a bizarrement pas empêché de devenir sarkozyste, trésorier cette fois de la campagne de Nicolas Sarkozy. En 2007, à 51 ans, vous serez ensuite nommé ministre du budget, assez sévère, plutôt austère et résolument en guerre contre tous les déficits.
Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux.
Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux.
Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France.
Alors certes, on vient d'en parler, mais on se souvient aussi sous Nicolas Sarkozy de la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. En tout cas, vous, Éric Woerth, cela vous a fait avancer. Le ministre du budget est passé ministre du travail. Et ce qui se disait alors, c'est que vous étiez même premier ministrable. belle revanche après des origines modestes. Sauf que tout s'est effondré quand les affaires judiciaires se sont multipliées. Affaire de l'hippodrome de Compiègne, affaire Bettencourt, viendra plus tard l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Pendant 4 mois, vous avez résisté et puis l'Élysée a fini par vous lâcher.
Je voudrais dire que c'est évidemment avec joie que je transfère au moins la partie travail à Xavier, parce que c'est un ami de très longue date. C'est aussi quelqu'un avec qui on a partagé beaucoup de choses, et des bons moments comme des moments plus difficiles, ce qui est le cas pour moi évidemment aujourd'hui.
C'était votre dernière passation de pouvoir le 15 novembre 2010, il y a 10 ans exactement, entre vous, Éric Woerth, et Xavier Bertrand. Alors depuis, dans les 2 premières affaires, vous avez été blanchi. Reste le dossier Sarkozy-Kadhafi, mais vous êtes très vite reparti, Éric Woerth. Vous vous êtes accroché, vous êtes toujours député, et pendant 22 ans, vous êtes resté indéfectiblement le maire de Chantilly. Non, décidément, rien n'a changé. Vous êtes encore un proche de Nicolas Sarkozy, fidèle soutien de François Fillon lors de la dernière présidentielle, lui qui en tant que candidat avait proposé la suppression de 500 000 fonctionnaires, ce qui ne devait pas être totalement pour vous déplaire. Seulement face à la crise actuelle, si la droite l'avait emporté, on se demande juste comment est-ce que vous auriez géré.
Réaction, commentaire, Éric Woerth.
Non, je ne reprends aucun des propos que je n'ai, enfin reprends, c'est-à-dire je ne reviens pas négativement sur aucun des propos que j'ai tenus à l'époque. Je pense que sur l'hôpital, je pense que j'ai raison et que la question n'est pas de ne pas faire face à une crise. Il y a eu plein de plans hôpitaux-ci, hôpitaux-ça, 2010, etc. Il y a d'énormes questions d'organisation de la santé. On a fait des ARS, elles sont devenus des administrations, c'était une très bonne idée à l'époque. Comme toujours, les bonnes idées, en général, se dégradent en France parce qu'elles sont technocratisées, bureaucratisées, on y met beaucoup d'argent, et puis in fine, il n'y en a jamais assez.
On n'a pas essayé de rentabiliser l'hôpital public, on n'a pas fait une erreur en voulant le rentabiliser.
Non, personne n'a... Mon Dieu, c'est rentabilisé, il y a 40 milliards de déficit. Rentabiliser, enfin, c'est une plaisanterie.
Mais ne refaisons pas l'histoire,
toujours...
le diagnostic non, sur la situation de l'hôpital public.
C'est comme ça. Et puis, ne soyez jamais trésorier d'une campagne, parce que quels que soient les sujets, vous serez toujours malmené. Mais moi, j'ai une certaine résilience. Vous savez, pour être résilient, il faut être à peu près en accord avec soi-même et considérer que parfois, la vérité met du temps.
Trésorier, vous ne le referiez pas ?
Non, peut-être pas. Non, je ne suis pas masochiste. Non.
Nathalie Saint-Cricq.
Est-ce que vous avez écouté Nicolas Sarkozy qui a été interviewé sur BFM ?
Oui.
Voilà. Vous l'avez trouvé convaincant ? Aviez-vous besoin d'être convaincu ou pas besoin de l'être ?
Non, je n'avais pas besoin.
Notamment avec les changements de pied de Takeli.
Alors, pour que tout le monde comprenne,
alors,
Nathalie.
Il répondait à un certain nombre de à l'interview de Ziad Takeddine. Sachez simplement que dans un premier temps, Ziad Takeddine l'a accusé d'avoir effectivement bénéficié de fonds venant de la Libye et que maintenant, Ziad Takeddine dit absolument le contraire en disant que s'il a témoigné contre Nicolas Sarkozy, c'était pour alléger son cas personnel. Comment est-ce que vous jugez ce changement de pied ? Est-ce que vous avez trouvé Nicolas Sarkozy convaincant ?
Moi, j'ai trouvé...
Il est question du financement de la campagne présidentielle de 2007.
Juste pour que les choses soient très claires. Moi, j'étais trésorier de cette campagne. Et s'il y avait eu... des euros d'argent libyen, je les aurais vus et je n'ai rien vu et je n'ai rien vu parce qu'il n'y avait rien à voir. Donc je ne crois pas du tout à tout ça. Monsieur Takeddine, c'est un homme de virement, visiblement, mais aussi un homme de revirement. Là, le revirement, il est très fort.
Une fois qu'on a dit ça.
Ça veut dire surtout qu'on peut pas avoir confiance dans les propos de Monsieur Takeddine.
Ni dans un sens, ni dans l'autre.
Mais juge chargé de l'enquête et ce sont magistrats d'en décider.
On peut avoir une opinion. On peut avoir une opinion pour dire que une affaire qui est fondée, oui, bien sûr, heureusement. Tout est dans la presse. Il y a un moment donné, ça va. Ouais. Vous avez votre présomption d'innocence qui est bafouée tout le temps. Vous êtes responsable tout le temps. Les personnes en face ne l'est jamais. Il y a un moment donné, vous savez, il faut être passé par là. Faut juste être passé par là pour savoir de quoi on parle. On parle d'une énorme souffrance. Alors parfois, les gens sont coupables et c'est une souffrance feinte ou la souffrance d'être pris les mains dans le pot de confiture. Quand vous n'êtes coupable de rien, c'est assez difficile
à surmonter. Vous pensez à ce que vous avez traversé ?
Oui, bien sûr.
Je l'ai vécu, donc l'expérience personnelle, elle est très forte.
Quand j'entends Nicolas Sarkozy... Quand j'entends, juste pour que tout le monde comprenne, pour complicité de financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy.
Oui.
C'est de cette épreuve-là.
Oui, puis toutes les épreuves d'avant. Vous avez fait référence à l'affaire Bettencourt. Donc c'est tout ça est des souffrances personnelles qui sont terribles. Encore ça, c'est pas très grave. Mais la colère aussi est très forte. Et j'ai trouvé que Nicolas Sarkozy, c'était ce bloc voilà. de souffrance et de colère. La fois où je l'avais vu dans cet état-là, c'était au moment de Clearstream, où on lui avait imputé ne sais quoi. C'était un truc épouvantable avec des premières pages dans Le Monde sans arrêt. Et puis in fine, tout ça a fait pchit parce qu'il y avait rien derrière. Et que c'était une manipulation. C'est terrible. Honnêtement, c'est terrible.
Y a-t-il une malveillance politique des juges, des magistrats en général? C'est ce que Nicolas Sarkozy laisse entendre en parlant du juge Tournaire.
Écoutez, les instructions, elles sont menées comme les juges pensent le faire. Ils doivent être aussi responsables de la qualité de ces instructions. Parce que derrière, ils font beaucoup de dégâts quand ils vont là. Des instructions comme ça, c'est des instructions qui coûtent des millions aux contribuables. Donc, à un moment donné, quand après tant d'années de recherche, et qui ne donne rien, on peut quand même se poser la question de savoir si c'est tout simplement pas parce qu'il n'y a rien. On a le droit de se poser ce type de questions. Et quand on prend en compte, pour argent comptant, si je puis dire, les propos d'un menteur, on peut peut-être, quand il dit le contraire, on peut peut-être avoir des doutes sur ce qu'il dit, mais comme on a des doutes sur tout ce qu'il dit, à ce moment-là, on ne tient pas compte de son témoignage. Et si vous retirez le témoignage de M. Takedine, honnêtement,
il ne reste plus que des sentiments.
C'est la question que vous nous posiez.
Donc ce sont des aveux qui ne servent à rien, en fait, qui ne changent rien.
Ben c'est des aveux qui font s'effondrer la plupart de ce qui est dit dans cette affaire. Ça part de ça.
Non mais ne spéculons pas, Éric Woerth, puisque de toute façon cet avenir n'est pas écrit et qu'il est entre les mains des magistrats.
En tout cas, il y a 8 années d'une instruction gigantesque. Oui, mais c'est vous qui me posez la question, c'est pas moi qui l'aborde. Donc je vous dis que quand, au bout de tant d'années, avec tant de gens, avec tant de monde qui sont occupés de cela, et on n'aboutit à rien, à aucune preuve de rien, à ce moment-là, on peut peut-être se demander si c'est pas parce que tout simplement il n'y a rien.
Françoise Fraisseuse.
En tout cas, l'ombre de Nicolas Sarkozy pèse sur la préparation de la campagne de 2022. Quel rôle lui attribuez-vous dans la recherche ou non d'un candidat pour le prochain élection, sachant que là, c'est quand même le grand désert à droite.
En tout cas, le pays est dans un état évidemment tout à fait, extrêmement inquiétant. Et donc, Nicolas Sarkozy, il comprend la France. Il a sûrement plein de défauts, comme nous tous. Enfin, il a des qualités que peu ont, c'est qu'il comprend le pays. Il comprend pas uniquement les Français, il comprend le pays. Et c'est extrêmement important dans une période de cette...
Son
parti le comprend aussi, mais Nicolas Sarkozy,
il a choisi
président.
François Fillon, par exemple... François Fillon n'échoue pas politiquement.
François Fillon, il échoue pour d'autres raisons.
Mais les Républicains ont préféré François Fillon à Nicolas Sarkozy. La question qu'on pose, c'est de savoir si Nicolas Sarkozy pourrait revenir.
Mais les Français ont préféré... Les Français ont battu De Gaulle, les Anglais ont battu Churchill.
Mais là, il est question uniquement des Républicains.
Donc, honnêtement, il peut y avoir, de temps en temps, des peuples qui décident le contraire. Les trois grands hommes, ils ont tous été battus par leur population de l'époque.
Mais comparaison n'est pas raison.
Sarkozy, il a été battu aux primaires. Voilà,
donc,
aujourd'hui, on est dans une situation absolument épouvantable, dans laquelle il faudra bien évidemment sortir, dans laquelle on doit dire est-ce que la France est dans une impasse? Je ne le crois pas. Nicolas Sarkozy, il a son rôle à jouer. Il a son rôle à jouer. Il comprend la France.
Soyons précis. Quel rôle?
Mais veut-il jouer un rôle? Je n'en sais rien. J'ai l'impression que non. Il dit partout que non. Donc j'ai l'impression que non. Donc s'il ne veut pas jouer un rôle direct, il peut jouer aussi un rôle indirect en aidant, conseillant, favorisant, en permettant d'éclaircir peut-être un certain nombre
en
de thèmes.
En favorisant qui?
En favorisant un candidat.
Mais quel candidat?
À un moment donné, on verra bien. Vois qu'il reçoit Xavier Bertrand, je trouve ça très bien. Mais on verra bien, on verra bien. En tout cas, il faudra compter sur lui, à la place où il le souhaitera.
Xavier Bertrand, qui est le président de la région où vous êtes élu dans l'Oise.
Xavier est un potentiel candidat, évidemment. Tant qu'on n'est pas candidat, on n'est pas candidat. Mais il faudra bien, mais tout ça paraît tellement dérisoire en ces périodes assez compliquées. Il faut bien, mais la démocratie doit continuer à fonctionner. C'est pour ça qu'on peut remettre des élections régionales un peu, mais pas trop.
Mais la campagne a commencé. Regardez, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, s'est déclaré. On voit dans les différents partis les états-majors qui commencent à
se déclarer. Le président de la République aussi est en campagne. Le président de la République aussi est en campagne. Donc il faut regarder les choses en face.
Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la droite d'avoir un candidat aujourd'hui?
Mais parce qu'il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui empêche d'en avoir un? C'est parce qu'il y en a plusieurs. S'il n'y a pas de candidat, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Et il faudra choisir. Il faudra un processus de choix. On pourrait en avoir aucun.
Il y en a plusieurs.
Et des gens plutôt de qualité. Donc, il y a des présidents de région. Il faudra qu'ils soient réélus. Donc, on a un peu un timing à monter. Ce timing, c'est à l'automne prochain. Et puis, en attendant, il faut continuer à travailler. Jacob fait le travail de président des Républicains. Il fait plutôt bien. Il fait en sorte que nous ayons un projet, un programme. J'y contribue. Nous avons une vision de la société. À un moment donné, il y aura une vision.
Je ne suis pas obsédée, mais juste entre là, les primaires, bon, personnellement, et le départage, ou là, je ne sais pas quoi, tous les termes qui sont inventés tous les deux jours par les Républicains entre Gérard Larcher et les autres, quel est le bon mode de désignation le plus démocratique de votre candidat? C'est comme ça, on doit mouiller. Il y a un truc qui s'appelle les primaires.
On va en discuter. Il faut qu'à un moment donné, s'il y a plusieurs candidats, il faut qu'il y ait un processus de sélection. Il faut faire appel aux militants et aller bien au-delà des militants. Il faut que les choses soient ouvertes. Il peut y avoir plusieurs catégories de votants. Enfin, en tout cas, il faut faire appel.
Vous revenez à une forme de
vote.
Primaire, finalement, quand même,
Oui, on peut l'appeler autrement. On peut l'appeler départage. Ça ne me dérange pas. Mais il faut bien départager, à un moment donné, des candidats. Mais tout ça paraît comme tellement dérisoire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France, que c'est vrai qu'on n'y passe pas notre temps.
Dérisoire.
C'est
l'élection qui décide de tout.
Regardez
les États-Unis, par exemple, qui ont traversé une épreuve démocratique en pleine crise du coronavirus. Bon, l'élection s'est tenue. En France aussi, on peut aussi imaginer un avenir.
Mais je ne dis pas que c'est pas nécessaire. Je dis que si nous nous concentrions sur la capacité à choisir un candidat et qu'on faisait de la politique politicienne, ça aura un petit côté décalé. Donc, il faut qu'on continue à s'organiser, évidemment, comme tout le monde. Okay. On continue à s'organiser et on sera prêt le moment venu. Cela dit, il y a quand même dans toutes ces nouvelles, il y a quand même eu deux bonnes nouvelles. Je tiens à le dire, sinon je vais passer pour le pessimiste de service. Il y a deux bonnes nouvelles dans la semaine, c'est Biden et le vaccin.
Oui.
Alors, je lis pas les deux, mais Biden, parce que ça va réouvrir, je l'espère, on verra, ça va réouvrir l'Amérique, et puis ça va éviter d'avoir une démocratie qui tourne au populisme flamboyant, ce qui n'est pas une bonne chose, et au repli sur soi des États-Unis, et puis le vaccin, c'est quand même
l'espoir au bout du tunnel
pour cette affaire. Oui, quand il y aura un vaccin, je me ferai vacciner. Je me suis fait vacciner contre la grippe. Je pense que c'est très important. Et tous ces complotistes anti-vaccins, mon Dieu.
Je reviens sur les États-Unis, la victoire de Joe Biden. Les États-Unis, c'est un vote par correspondance assez important qu'il y a eu, en tout cas cette fois-ci. Vous êtes favorable ou pas au vote par correspondance?
Je suis assez partagé là-dessus. Je suis pas sûr qu'on soit prêt pour les élections régionales, par exemple.
Il faut du temps pour s'organiser.
Je pense qu'il faut du temps et que l'État ne s'est pas préparé à cela. Maintenant qu'on puisse favoriser des votes éloignés par Internet ou par correspondance, je pense qu'il faut regarder les choses de très 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 près. Pourquoi pas? Si ça ne nuit pas à la libre participation au vote de chaque citoyen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression, il y a des pressions intra-domicile, intra-familiales, qui peuvent s'exprimer de façon beaucoup plus facile quand vous êtes devant un ordinateur et que vous appuyez sur une touche, ou quand vous mettez un nom que vous mettez dans une enveloppe. Donc on peut pas lutter contre les communautarismes et d'une certaine manière la perte de liberté d'un certain nombre de nos concitoyens aujourd'hui encore en France, on voit bien notamment pour un certain nombre de femmes. Donc on ne peut pas laisser ou d'enfants. On ne peut pas à la fois lutter contre cela et avoir un mode de scrutin qui favoriserait cela.
Françoise Fressoze.
Est-ce que vous pouvez décrire le projet que vous aimeriez le jour où on aura un vaccin? C'est-à-dire que même si vous dites c'est trop tôt ou que c'est pas le moment, la droite sur quoi va-t-elle se positionner en 2022?
Moi, je voudrais que l'État il ne soit pas dans un système qui pénalise, qui tétanise, qui déresponsabilise. Aujourd'hui, c'est tout cela, au fond, d'une certaine façon. Il y a un poids extraordinaire qui empêche de créer et de produire. C'est l'organisation de l'État, c'est l'organisation, c'est notre organisation. Peut-être qu'on a ça dans notre tête, au fond. Et si on pouvait tirer des leçons de ces confinements avec l'idée qu'il faut libérer la production, la création, création, les esprits, enfin favoriser en tout cas tout ce qui peut, plutôt que de mettre des bâtons dans les roues, oser d'une certaine manière. Un ministre qui prend une décision contraire à son administration, et s'il a le droit de la prendre, il est tout de suite rattrapé par la patrouille. Bon, c'est un peu tout ça. Et puis je pense que il faut vraiment mettre en avant l'idée que la France, elle doit produire. Produire, créer, inventer, c'est beau. Et ça veut dire que derrière, on a des organisations. Quand on parle de chaîne de production, on l'a bien vu durant cette crise. Ces chaînes de production doivent poser la question aussi du temps de travail. Chaînes de production, temps de travail, souveraineté économique, ces sujets sont évidemment très importants. Et un deuxième sujet, c'est la réduction des inégalités. On ne peut plus vivre aujourd'hui avec le sentiment, parfois c'est un sentiment, qu'il y a des inégalités trop fortes en France. Même si le moteur social, il est réduit de manière considérable. Entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, après moteur social, après sécurité sociale, elle s'est réduite de 4 fois. Donc c'est déjà considérable, bien plus que dans d'autres pays. Et pourtant, regardez, cette crise nous dit aujourd'hui qu'il y a 300 000 SDF aujourd'hui dans la rue, que le taux de pauvreté, même s'il est bien plus faible en France que dans plein d'autres pays, il est important. Et il y a des pays qui supportent ça, il y a des pays qui ne supportent pas ça, et on a raison de ne pas le supporter. Peut-être doit-on aller plus loin pour réduire ces inégalités. Et puis il y a la soutenabilité, c'est-à-dire le fond, que si on veut être durable. Et on voit que tout s'effondre. Vous supprimez des antennes de 4G, tout s'effondre. Vous supprimez une ligne Internet, tout s'effondre. Vous mettez un virus, tout s'effondre. Donc si on veut une France qui soit, et une Europe, et finalement aussi un monde qui soit soutenable, il faut avoir des politiques soutenables. Soutenables sur le plan financier. Parce que la pire des injustices, c'est de dire à tous ceux qui nous succéderont qu'ils paieront pour nos erreurs d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la pire des injustices. Alors moi, je sais bien qu'il y a plein de gens qui s'assoient là-dessus, mais moi, oui, je ne peux pas m'y résoudre. Et puis la soutenabilité écologique et sociale sont évidemment également fondamentale. Ça doit être, à mon avis, les trois éléments. Et le plus grand élément, c'est l'égalité des chances. L'égalité des chances. C'est un très beau mot, l'égalité des chances. Vous pouvez pas vous dire que vous considérez que tout ira toujours plus mal pour les générations futures, qu'en fait vous évitez l'ascension sociale, que vous ne croyez pas à l'ascension sociale, mais vous croyez au contraire au déclassement.
Ça ressemble à du Macron 2017.
La peur du déclassement. Non, ça ressemble à ce que je crois. La peur du déclassement. Bah oui, moi je pense qu'il vaut mieux. On a plus besoin de d'action que de promesses.
À propos justement, pour compléter votre programme centre gauche et la soutenabilité sociale.
Centre-gauche, ça ne veut plus rien dire.
C'est
pas du centre-gauche.
Un certain nombre de propositions. Bruno Retailleau propose...
Pas parler d'autorité. Retrouver l'autorité, c'est pas du centre-gauche.
On va faire tout de suite après, si on a le temps. Bruno Retailleau propose de prolonger les allocations jusqu'à 23 ans, en considérant que les jeunes sont dans une grande difficulté financière pendant cette crise. Certains proposent le RSA pour les plus jeunes. Quel est votre point de vue sur
un pays qui mettrait, qui dirait à la jeunesse, ton espoir, c'est que heureusement on va mettre le RSA. Enfin, c'est pas possible. Oui, je pense qu'il ne faut pas.
Dans une situation particulière.
Mais on doit pas céder non plus à cela. Il faut pas dire aux jeunes qu'ils auront une allocation. D'abord, ça enclenchera beaucoup de très mauvaises réactions.
Donc
à
pas
tout
d'être
ça.
Pérenne.
Qu'il y ait une allocation de détresse. Qu'il y ait une allocation de détresse pour des jeunes qui aujourd'hui font leurs études et qui avaient des petits boulots, qui peuvent plus les payer ou qui se trouvent dans des situations qui étaient en apprentissage et qui ont vu rompre leur contrat d'apprentissage. Sauf qu'il y en a beaucoup des contrats d'apprentissage. Mmh. Que des jeunes qui n'ont fait aucun, mais sous condition, qu'il y ait une allocation de détresse très ponctuelle liée aux conséquences de cette crise et qui ne soit pas générale, ça, on pourrait le comprendre.
On a compris votre raisonnement. Il reste 3 minutes, donc vraiment des réponses et des questions concises. François Fressoz et Karine Bécard auront le dernier mot.
Des maires sont en train de signaler la situation désespérée des banlieues et demandent que 1 milliard du plan de relance soit consacré à la politique de la ville. Est-ce que vous êtes pour ou contre ?
Mais pourquoi tout mettre dans le plan de relance ? Enfin, il y a déjà des milliards d'euros qui sont consacrés à la politique de la ville. On parle depuis 25 ans de politique de la ville et on voit que les villes ne progressent pas. En tout cas, les banlieues, entre nous, elles ont un peu progressé quand même. Ça reste quand même dans un certain nombre de cas des ghettos. Donc la question, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans les milliards d'euros.
Les plus démunis, on parle d'ici à la fin 2020, on y est presque, de 10 millions de Français qui feront partie des plus pauvres. On les entend pas malgré tout. Est-ce qu'elles vous inquiètent, en fait, cette résignation des plus démunis, des plus pauvres aujourd'hui?
D'abord, il y a beaucoup de politique sociale. Enfin, faut quand même aussi, quand on dit ça, on dit, mais enfin, chacun d'entre vous payez beaucoup, beaucoup de cotisations sociales, et c'est tant mieux pour essayer d'aider les plus démunis. La question pour un plus démuni, c'est comment il va l'être moins. Quand on voit qu'un enfant qui naît dans une famille de gens très démunis, il met 5 à 6 générations pour obtenir à peu près la moyenne des revenus.
Aujourd'hui, c'est absolument colossal. De notre population, l'organiser, quand même, donc il en faut
il y a 2 ans, j'ai organisé un colloque avec l'OCDE sur ce sujet qui est fondamental. C'est pour ça que je pense que l'égalité des chances, elle doit être au cœur de la politique des Républicains, mais et l'autorité bien sûr. Mais je pense que nous devons, et d'ailleurs le gouvernement a pris des mesures. Hein. Il a pris des mesures dans le cadre des mesures de soutien. Il a pris des mesures d'accompagnement social. L'indemnisation du chômage.
On parle d'un sixième de la population française quand même. Hein. C'est énorme. Il en faut des moyens.
Il reste une minute.
C'est beaucoup.
Non, mais vous n'avez pas 10 millions de personnes pauvres. Vous n'avez pas 10 millions de personnes pauvres.
C'est les chiffres qu'on va découvrir à la fin de l'année.
Enfin, sur le nombre de personnes. Je compte les retraités à l'intérieur. Il y a beaucoup de petites retraites. Vous avez... Enfin, ce que je veux dire, c'est que notre système social, il fonctionne à plein. Et c'est très bien. Il faut le rendre plus efficace. Et souvent, il n'est pas assez efficace. Il n'aide pas assez ceux qui doivent être aidés. Il aide trop ceux qui n'ont pas besoin de l'être. Tout ça, c'est des sujets. Le modèle social français, il doit être repensé. Repensé avec avec un A. Et si on ne le fait pas, et on ne l'a pas fait durant ces 5 ans, et on ne l'a pas fait dans les 5 ans d'avant, on aboutit à des situations comme celle-là.
Vous portez donc une politique du care, comme on dit en bon français, comme Martine Aubry, il y a déjà maintenant.
Je porte une politique de bon sens. De bon sens.
Éric Woerth, vous parliez de vague à l'âme. Sur France Inter, il y a une émission formidable qui s'appelle Remède à la mélancolie. Quel est votre remède au vague à l'âme?
La montagne.
Oui, la montagne. Alpiniste.
L'alpinisme.
Et vous en êtes privé?
J'en suis privé, absolument.
Parce qu'à Paris, c'est la gentillesse.
Voilà une tonalité un peu heureuse pour terminer cette émission. Merci en tout cas, Éric Woerth, d'avoir été notre invité. Merci à toutes les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve dimanche prochain. Merci à Alexandre Gilardi et à toutes les équipes de Question Paul.